Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. Ce sont les mots d'Auguste Spiess, un des 5 pendus de Chicago, dont le supplice fut du 1er mai, un symbole de la lutte des classes à partir de 1890. Et si vous voulez tout savoir sur cette journée symbole, lisez « Histoire du 1er mai » de Maurice Domanger, qui vient enfin d'être réédité par une petite maison d'édition marseillaise.
Oui, je vois le centre commercial. Vous savez, celui où il y avait un reportage dans la radio, on peut pas trop se syndiquer, c'est mal vu. Ils vendent du muguet et du muguet. Et les gens, ils achètent, ils consomment du muguet. Alors que le muguet, c'est une tradition. Autant acheter un muguet, un petit môme, lui faire de l'argent de poche, hein, pour que d'engraisser les grosses sociétés qui sont au 4,40. Non, là, je ne comprends pas. Moi, j'achèterai jamais un muguet à un centre commercial. J'achèterai un petit môme dans la rue à quelqu'un qui veut faire de l'argent de poche. Ça, c'est plus sympa, hein, ce petit contact direct entre nous. Toujours ce mot consommation. Consommation! Croissance, réforme, consommation. Chômage, croissance, réforme, consommation, pétrole. Voilà les mots qu'on entend sans arrêt.
Nathalie d'Avignon, bah, je suis en train d'écouter l'émission sur le premier baiser. C'est super, parce que je me souviens très bien moi aussi de mon premier baiser. Je me souviens encore comment j'étais habillée. J'avais 14 ans, un peu plus de 14 ans, j'en ai 50 maintenant. Et c'était avec Pierre qui était mon premier amour. Et je pense que Pierre était quelqu'un qui embrassait bien, parce que j'ai un très très bon souvenir de ce premier baiser. Et je me souviens qu'on s'était passé un bonbon à l'orange. Donc ce premier baiser avait le goût de l'orange. J'ai encore dans la bouche rien qu'en en parlant. Voilà, ça m'émeut d'entendre toutes ces choses et j'avais envie de le raconter. Ben, merci.
Mon premier baiser, c'était avec une jeune fille très belle. Et puis j'étais sur un banc, je la tenais par la taille et puis on s'embrassait. Et puis le baiser n'en finissait plus. J'étais aux anges, bien sûr, mais j'avais le bras complètement kilosé. Et ça a bien duré 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout d'un moment, bah, j'osais pas lui dire que j'avais le bras ankylosé, que j'avais plus de sang dans le bras, parce que j'avais peur de rompre le charme. Et puis, bref, quand enfin elle s'est retirée, mon bras est tombé comme une bête morte. Et puis, mais je suis resté stoïque. Et puis voilà, quoi. Alors, je voulais juste vous dire cette petite anecdote, que j'avais peur de rompre le charme, quoi. Et puis que j'avais plus de sang dans le bras. Merci beaucoup. Au revoir.
Moi, je me rappelle très bien de mon premier baiser. J'ai 48 ans maintenant. J'avais 20 ans et ça s'oublie pas parce que c'était Place du Tertre. Tu vois, ça s'invente pas. Et donc, j'avais 20 ans. Elle devait avoir 20 ans également. Elle s'appelait Corinne. Et on s'est embrassé tout près de la Place du Tertre, tout près du Sacré-Cœur. Et je me rappelle que j'ai été très très dérangé après. Après, j'ai été obligé d'aller aux toilettes tellement j'avais été ému. Et c'est resté quelque chose de très fort. Maintenant, j'ai 2 filles, une de 20 ans, une de 16 ans. Et puis, j'ai toujours une grande tendresse pour ce moment de ma vie qui est resté important.
Je vous appelle pour l'émission sur le premier baiser. C'était bien. Mais ce qui est bien et ce qui est encore mieux, c'est le premier amour. Quand on a 4 ans et qu'on rencontre sa petite fille dans la cour de la maternelle. C'était une petite brune, moi je me rappellerai toute ma vie. On se tenait par la main et on était heureux. Salut.
Oui Daniel, je t'appelle après l'émission de vendredi, premier baiser. Mon premier amour à moi, il est loin. Mais moi aussi, je n'ai pas oublié. Je me rappelle souvent de celle qui m'a accompagné, bien au-delà du premier émoi qui était forcément maladroit. Alors voilà, Daniel, ça fait 5 années que mon bel amour n'est plus. Mais peut-être que les anges écoutent la radio. C'était juste pour dire à ma première complice que je l'aimais toujours à la folie.
Là-bas, si j'y suis, vendredi, le baiser. Les baisers me rendent complètement folle. Et surtout les tiens, surtout les tiens. Et sur toutes mes lèvres. Voilà. Ciao.
On en était sûr, les vraies femmes écoutent. Là-bas, si j'y suis, non seulement elles écoutent là-bas, si j'y suis, mais elles parlent sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Merci pour ces messages, surtout celui-là, mais pour tous les autres. On va faire très vite aujourd'hui. Il y a d'autres messages qu'on voulait passer, mais on manque de temps. On va tout de suite revenir en arrière. 70 ans en arrière, 1936, célébration de 1936 aujourd'hui, à travers des archives retrouvées de là-bas, si j'y suis, d'il y a 10 ans. Eh oui, en 1996, déjà nous avions évoqué avec Zoé Varier ces grands moments quand la gauche essayait, quand nous allions au-devant de la vie.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Ai-je raison? Alors disons. Vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé.
On allait camper ensemble. On partait en train, on chantait dans le train. On passait une journée à la campagne au bord de la Marne. Et tout ça était dans un climat d'honnêteté, de simplicité, d'affection. C'était fou, quoi. On croyait dans les vertus humaines.
On croyait que tout était possible.
Oui. Que tout était devant. Oui.
Partout, si on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter. Partout, on peut aimer et boire. À nous, la liberté.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier, là-bas si j'y suis, sur le front populaire.
Flight number 2, arriving.
Le nouveau président du Conseil, Léon Blum, annonce aux Français quel programme il entend suivre.
Nous serons un gouvernement de biens publics. Nous voulons rendre confiance en elle-même à l'Europe pacifique. Nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse.
Il fut un moment où les Français crurent vraiment qu'ils allaient s'aimer les uns les autres. Jean Renoir, à propos du Front populaire.
Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la ville, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis, il va vers le soleil, levant notre pays. La joie te réveille, ma blonde. Allons nous unir à ce cœur. Allons vers la joie et le monde. Allons au-devant du bonheur. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil, levant notre pays. Et nous saluerons la brigade et nous sourirons aux amis. Mettons en commun, camarades, nos plans, nos travaux, nos soucis. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis, il va vers le soleil, levant notre pays. Et voilà, ça c'était une chanson qui était chantée tout le temps.
Mais dites-moi, elle est très belle, c'est plein d'espoir.
De l'espoir, on en avait.
Beaucoup. Vous espériez quoi?
Tout.
C'est comme le peintre en bâtiment qui sifflote un petit air dans une pièce vide. On le connaît, l'air. On ne sait pas comment on l'a pris. C'est un air qui est dans l'air qu'on respire. Un flair en suspens. Un certain sentiment de la France. 36, Front populaire. On a tout dit, tout écrit, tout musé, tout rangé. Tous les 10 ans, pour la Nive, on sort le dossier, on souffle sur la poussière et puis c'est classé, du passé dépassé. Que reste-t-il de ses amours, de nos jours? Quelque chose de nous, en nous. La légende de la belle embellie. Un catéchisme avec des anges prolos et des patrons salauds. La belle histoire des gentils ouvriers pleins d'espoir contre les grands méchants possédants qui n'en finiront jamais de se venger de cet affront populaire. Que reste-t-il de ces toujours? Un frémissement fertile, encore, enfoui dans nos âmes de foule sentimentale, prête à s'allumer de pétards en pavés qui rebondissent dans nos livres d'école de France. 1789, 1830, 1848, 1871, 1936, 1944, 1968. Mais c'est pas par là qu'on va. On fait pas dans le précis, truc historique, machin, chronologique, bidule, non. On va laisser ça de côté, on va se la faire à la buissonnière, à la fleur de peau. Pas la leçon, mais le son. La peau du son et des songes et des mensonges de ces années-là, avec Lisette, 82 ans, à sa fenêtre, aujourd'hui. Ils ont rêvé, nos papis en tiastiette et nos belles mamies en tablier. Jusque-là, ils s'en sont mis de l'espoir. Comment ne pas les aimer? Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça? La mémoire d'une courte embellie, un soleil dans les branches, un accordéon, un dimanche de la vie, premier vélo, fleur au guidon, le petit casse-croûte au bord de l'eau, la TSF, Raymond, Simone, drapeau rouge, un monde en marche, de la République, de la France, des restes de chair à canon, de la future chair à illusion. Et alors? C'est comme si la peur d'être cocu empêchait d'aimer. On est si provisoire, à nous la liberté. C'est de la foule, de poings levés, les salopards en casquette, comme disait la droite au sujet des ouvriers. C'est un temps de haine et d'allégresse. C'est les grèves, les occupations d'usines, ou dans les grands magasins, par exemple, à la Samaritaine, le personnel en grève, avec occupation, qui la nuit n'osait même pas s'allonger sur les matelas du rayon literie. Respect de l'ouvrage, la belle équipe. Ils ont osé prendre leur place, descendre sur le pavé, occuper la rue. La vie est à nous, occuper la vie, les champs, les talus, les lilas. Que voulez-vous ? Nous nous sommes aimés. L'espoir, la vie qui change, un souffle, la conquête de la dignité. À nous la liberté, on cassera la gueule au gros. Vas-y Léon, défends ton ministère. Les soviets partout, mort aux vaches, les yeux fertiles.
Du lundi jusqu'au samedi, pour tailler des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suivi le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas faire. Chagrin et haine de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. À tout premier, au bord de l'eau. Venez des gens qui affarbeux, qui tout le temps sont des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des temps d'oseille pour découvrir les merveilles. Pas moins qu'à peine à l'auteur, car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien, de chercher si loin.
Tout ensemble au
fond. Oh, on se promène au bord de l'eau, comme tout est bon, quel renouveau. Arrive au loin, nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs, le mer, à l'envers, et le bonheur, nous saoule, nous pas cher. Chagrins et peines de la semaine,
tout est noyé dans le bleu, dans le vert.
Sur le toit de cette maison qui est la vôtre, le drapeau des travailleurs. Vous tous, avec vos parents, vos amis et connaissances, on vous attend le jour de Pâques. Le jour de Pâques, c'est l'ouverture. On fera des crêpes, il y aura du boudin.
On se dise, en avant la musique.
Front populaire, Front populaire. Aujourd'hui, Lisette, qu'on va retrouver à sa fenêtre, dans sa maison en banlieue, était peut-être une petite ouvrière en Java qui se faisait des accroche-cœurs autrefois sur son front populaire. C'était ça, sans doute. C'est les images qu'on voudrait garder. Il y a aussi les fachos. Il disait de Léon Blum, c'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Mais c'est aussi Prévert, mais c'est aussi Bussière.
Ça nous semblait au fond assez simple et assez normal, tout ce qu'on vivait, tu sais.
Lisette.
Toute cette effervescence... Euh... Oui, ça nous semblait normal, ça nous tombait comme ça, ça remplissait nos vies, et on ne manquait aucune manifestation. Et il y a des manifestations, il y en avait beaucoup, et il y avait, on n'en parle plus maintenant, le mur des fédérés. Et alors on y allait avec beaucoup de recueillement, et il y avait un groupe de chants, je ne me souviens plus comment s'appelait ce groupe, qui était pourtant très 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 connu, qui dès l'entrée dans le cimetière, chantaient des chants révolutionnaires qu'on reprenait avec eux, puis on se taisait en passant devant le mur des fédérés. On s'y donnait à plein à tout ça, bon, oui, à plein.
1936, c'est peu de temps après 1918, hein, c'est 18 ans plus tard, on est encore sous le coup de cette boucherie qu'a été la guerre de 14. Mais aussi, on a encore la mémoire de la Commune, c'était 1871, ça fait 47 ans, mais il y a encore cette mémoire présente et vivante.
Il faut que j'ai dû te dire que mon grand-père avait été un communard. Il a élevé ses enfants dans la laïcité. Et pour nous, c'était une tradition, la laïcité. Et mon grand-père devait déjà être un socialiste de l'époque, puisque papa parlait souvent de ce que son père allait aux réunions de Jaurès. Et quand il y avait eu l'enterrement de Jaurès, ça avait été une catastrophe dans la famille. Donc mon grand-père était déjà un socialiste en puissance. Mon père n'a jamais eu une carte dans sa poche, il était trop indépendant. Enfin, il était déjà communisant, quoi. Et il disait l'humanité. Hein.
Il y a une filiation, là.
Voilà. Hein,
entre la Commune et 36,
c'est le même. Absolument, absolument, absolument.
Monsieur, assez. En grève. Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs? Vous acceptez?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot?
C'est beaucoup trop.
Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas.
Oh. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Ah, quand ici vous dormirez, vos femmes pourront vous veiller.
C'est pas assez.
Oh, nos femmes, quelle erreur est la vôtre? Nous préférerions celle des autres.
Voyons. Ben, voulez-vous Ninon de l'Enclos ou la Vénus de Milo?
C'est beaucoup trop.
Ah là là, messieurs, vous n'êtes vraiment pas commode, savez-vous. Vous protestez, et pour quelle raison?
D'abord parce que c'est la mode. Et puis pour embêter le patron.
Ah, c'est comme ça, eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Alors, voulez-vous être commandeurs tous de la Légion d'honneur?
C'est pas assez.
Comment? Enfin, songez au revers de la médaille. Car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille, non?
Soit, nous l'avouons bien haut. Vous travaillez du chapeau.
Ah, pas le semble, c'en est trop.
Monsieur
toute une effervescence comme ça.
Des ouvertures, je dis intellectuelles, ça sera peut-être un petit peu exagéré, mais pas tellement peut-être, pour amener les gens à réfléchir, à avoir des envies, à développer leur cerveau. Juste l'inverse de ce qu'on fait maintenant. Avoir une qualité supérieure d'homme.
Mais on pensait pas quand même créer un homme nouveau, si on avait l'idée d'un homme nouveau?
Avec le recul, on peut dire c'était créer un homme nouveau. Mais nous, c'était simplement faire que les hommes soient heureux. Qu'ils puissent tous être heureux. Qu'on était exploités par les riches et qu'il fallait en sortir. Que l'argent dominait le monde et qu'il fallait en sortir. Ne plus se laisser crever pour ces gens-là.
Messieurs, le décor va changer. Fini, messieurs, la rigolade. Fini le régime des pantins. Et sans faire de barricades, voici la chute des coquins. Nous voilà enfin en République. Le peuple sera protégé. Le veau d'or n'est plus qu'une vieille bourrique. Messieurs, le décor va changer. Fini les taudis, les mansardes, où la Camarde avait son nid. Nous voulons que le soleil regarde le berceau de nos chers petits. Il y aura de la soupe dans la marmite, nos femmes iront chez le boulanger. Le bonheur nous rendra visite, messieurs, le décor va changer. Pour tous, la vie doit être belle, elle se sera pour nous demain. Fini les heures si cruelles, l'hiver sans feu, les jours sans pain. On veut dormir l'esprit tranquille, sans que les chagrins viennent nous ronger. Tout ça sans faire la guerre civile, messieurs, le décor va changer. Tout ça parce que dans une boîte, on a su jeter un petit bulletin, ce qui fait qu'au lieu d'aller à droite, on marche à gauche, quel bon chemin. Tout ça parce que les gens misères du même côté se sont rangés. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Messieurs, le décor va changer. Adieu la nuit, v'là la lumière. Au lieu de pleurer, on est joyeux. Et nous rentrons dans la carrière, chemin tracé par nos aïeux. La nation forte sera heureuse, car Léon Blum et son berger, la route est libre et lumineuse, puisque le décor va changer. Fini tous les bagnes d'Afrique, fini l'enfer de Biribi, soldats que l'on mène à coups de trique, la France va défendre ses petits. Plus de prostituées par la misère, la femme bientôt pourra siéger, ce sera la revanche des filles mères. Mais est-ce que le décor va changer? Et les gars du Front populaire sont venus en rang serré, le dire à ceux qui sont sous terre, au pied du mur des fédérés.
En mai 1936, le Front populaire en France emportait les élections. Ce fut l'obtention de la semaine de 40 heures et puis les premiers congés payés, la belle embellie. Après, on s'est fait avoir, mais c'est comme toujours. Et puis, est-ce qu'on y pensait vraiment? On s'enflammait après tant d'humiliations accumulées, tant d'injustices, tant d'inégalités, tant de dédains. Ce fut trois pas en avant et deux pas en arrière, et le pas qui reste encore aujourd'hui gravé, mythiquement gravé, dans nos mémoires. Si nous fûmes dupes, la duperie fut assez noble, dit un écrivain, et Blum, Léon Blum, disait « Ce fut une espèce d'embellie, d'éclaircie, dans des vies difficiles, obscures. Ce fut la première année où mon père vit la mer. »
Tout d'un coup, hop, tu découvres la mer devant toi. Elle est en dessous, loin, mais tu la vois tout d'un coup. Et ça, c'est un souvenir inoubliable, d'avoir vu la mer comme ça. C'était des cailloux à Yport, hein, des galets. Mais ça fait rien, c'était formidable. On n'est pas resté un mois, hein, 8 jours, c'était déjà beaucoup. Mais d'avoir découvert la mer comme ça, c'était les premières vacances, les premiers congés payés. Quand j'y pense encore, je suis émerveillée de l'espace. C'était la mer, et la mer était là devant mes yeux. C'était tellement grand, tellement vaste, c'est ça la mer.
Toute l'existence, elle est humaine, au prix des prisons, les règlements, les lois, les convenances, et les travaux, les bureaux, les maisons, ai-je raison, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on entend l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer les voix. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut suivre sa fantaisie. Quand on est libre, on fait ce qu'on veut, on vit heureux selon ses voeux. Mon vieux copain, la vie est douce, vivons comme vive les fleurs. Ne pas en fichu une secousse, c'est le vrai secret du bonheur. Partout, si l'on n'en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer les voix. À nous la liberté. Ils ne font pas penser au mariage, quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagi par l'âge. Quand on entend d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde, les fans vont de tout côté. Quand nous verrons le bout du monde, il sera temps de s'arrêter. Partout, si l'on entend l'histoire, partout, chanter, partout on peut aimer les voix. À nous la liberté.
Mais vous y êtes allé en train?
Ah oui, ah oui. Oh, il y en a un souvenir là du train. On était les compartiments 8 à l'époque. Il y avait un type qui, je ne sais pas s'il était heureux, tout plein heureux. En tout cas, il vidait son litre de rouge dans sa godasse. Et il buvait dans sa godasse. Papa était outré. Mais c'était resté un souvenir dans la famille.
Content de partir en vacances?
Sans doute. C'était un émerveillement. Il y avait les autres qui guettaient. Ils donnaient ça, mais ils savaient qu'ils le reprendraient.
Oui.
Ils étaient plus fins que nous. C'était des concessions momentanées. Le mouvement ouvrier les a obligés à faire des concessions. Mais ils savaient très bien que c'était des concessions momentanées, que ça ne durerait pas, qu'ils les rattraperaient. Ils avaient des fins psychologues à leur service pour savoir comment faire pour reprendre tout ça. Et c'était la guerre d'Espagne qui a démarré, qui a préparé le reste. Ils ont essayé leurs armes en Espagne. Puis ils nous ont tout repris petit à petit.
terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde. Dans la vitrine de chez Potin, il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poisson mort protégé par les boîtes, boîte protégée par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Marianne Oswald dit Jacques Prévert. Le Front populaire, ces années autour de 36, furent un moment d'effervescence et de jubilation et d'invention au plan qu'on disait pas encore culturel, on disait artistique, peut-être. Et aujourd'hui, avec le temps, il faut bien dire que certains semblent bien avoir vieilli, mal vieilli, comme celui qui écrivait « Perpétuel temps des cerises ». C'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants. Prenaient de nous leurs vols obliques, les chansons de la République. C'était comme une féerie. Aujourd'hui, le peuple est le maître. Il se promène dans Paris, qui met ses chapeaux aux fenêtres. Enfant, chanter, rechanter, le pain, la paix, la liberté. C'était Louis Aragon qui écrivait ça, faisant somme toute des vers de mirliton pour essayer de plaire aux populaires. Étrange époque où ces intellos staliniens vont croire devoir tromper le peuple pour la bonne cause. Il y aura des gourances consternantes à l'ombre du joli temps des cerises de cette année-là, de ces années-là. Mais il y a eu aussi une volonté de rapprochement entre le populo et l'intello. On essayait d'inventer quelque chose qui fût à la fois populaire et savant. André Malraux, qui par exemple, en 1935, écrit cette phrase fameuse concernant l'art. Il disait, on peut aimer que le sens du mot art soit tenter de donner conscience à des hommes de la grandeur qu'ils ignorent entre eux.
Il y avait, tu sais, tout un groupe de gens qui s'occupaient de littérature populiste, qui s'occupaient d'etc. Et il y avait deux acteurs qui avaient monté un groupe qui s'appelait le groupe Prémisse. J'étais fonctionnaire à la préfecture de la Seine, j'étais dessinateur. Or, on y était, et ces gars faisaient du théâtre, des sortes de poèmes en chœur, etc., populistes. Et assez vite, j'ai rencontré quelques copains là-bas qui ont été comme moi, qui étaient très intéressés par l'art, on aimait bien ça. Mais enfin, on avait tout surréalisme, on avait tout découvert dans ce genre-là, à ce moment-là. Et son petit populisme ne passionnait pas. Et nous, on avait entendu parler aussi du mouvement qui existait en Allemagne avec, comment il s'appelait, un grand maître, Piscator. Qui s'appelait Piscator. Et qui était l'agitation de propagande. Alors un jour, on en a parlé à Moussinac. Et Moussinac nous a dit, écoutez, puisque vous intéressez pas, etc., montez dans votre groupe, quoi. Et avec 5 ou 6 copains qui étaient dans ce groupe Prémisse, nous avons monté un groupe. Et se dit, pour qu'il n'y ait pas de gourance, pour qu'on sache exactement à quoi ça correspondait, on l'appelait le groupe Octobre. Je ne sais pas exactement qui a eu l'idée de l'appeler le groupe Octobre, mais enfin voilà. Quand on a eu monté ce groupe, d'accord, je te dis avec Moussilang, le grand problème, ça a été de trouver des textes. Et on a été voir Jacques, et il nous a dit, j'ai pas le temps, mais qu'on se revoit. Et nous avions mis dans l'intention de faire des textes. Nous avions pris des coupures de journaux, toutes les coupures de journaux bien dégueulasses qu'on trouvait dans l'intransigeant, dans les Côtes de Paris, dans les machins, tout ces bien orduriers. Et alors, on les avait mis de côté. Et un jour, on a apporté tout ça à Jacques. Et il nous a dit, bon, ben, je vais y penser. Mais entre 2 jours, en 3 jours, il nous a rapporté un texte. Qui s'appelait Vive la presse.
Attention, camarades. Attention. Mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renault. Pour Renault, pour le pape, pour Kiap, pour les marchands de viande, pour les marchands de canons. Ici, les enfants jouent avec la tuberculose dans le ruisseau. Le travail est dur, mal payé. Très dur, très mal payé. Et quand vous sortez dans la rue, la rue n'est pas à vous. La rue est aux flics. La rue est aux curés. Regardez vers la Russie, camarades. La Russie où il y a des hommes et des enfants qui rient. Des hommes comme vous, qui vous appellent et qui vous crient. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
Puis il est venu avec un gars qui s'appelait Tchimoukov, qui se faisait appeler Tchimoukov. Il s'appelait Louis Bonin. Et alors Jacques nous a lu ce texte, on était en 2 naturellement, on était en 4, on était étonnés. Enfin, et puis ce loup Tchimoukov nous a dit, alors on pourra avoir un paravent, on pourra avoir ceci, puis alors on mettrait une jume, on va avoir tout ça en après. Mais vous ne faites pas, on te débrouillera avec ça. Et voilà, puis il est venu avec tous ses copains surréalistes, de plein de gars, enfin, plein de copains, et voilà comment le groupe Octobre a été formé.
Et voilà comment ça s'est passé. Vous avez reconnu Raymond Bussière. C'est vraiment merveilleux d'entendre la voix de ce bonhomme formidable. C'est ça. Prévert s'est mis à écrire pour le groupe Octobre, contre le capitalisme, contre l'avènement d'Hitler. En 33, il a écrit une pièce dans la journée pour la grève à Citroën, enfin pour des tas de moments comme ça. Et dans la troupe, le groupe Octobre, sont passés des gens comme Mouloudji, Yves Deniau, Yves Allégret, Francis Lemarque, Joseph Kosma, Roger Blin, Maurice Baquet, Paul Grimaud, et puis Raymond Bussière, entre autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, la troupe a participé au festival de théâtre de Moscou en 1933, alors qu'il faut le préciser, le groupe Octobre n'était en aucun cas inféodé au Parti communiste. Les archives montrent très précisément ça. Aujourd'hui, il y avait une totale indépendance financière. Les annonces qui paraissaient dans l'Humanité lorsque le groupe jouait quelque part étaient insérées à titre payant. Alors, il y avait des tendances, évidemment. Tout ça, ça se passe avant 36, hein, ce dont on parle, dont Raymond Bussière parlait. Alors, à l'intérieur du groupe, il y avait des tendances politiques. Il y avait des communistes, il y avait des trotskistes, mais il y avait surtout la sensibilité libertaire, comme on pourrait résumer d'une seule expression de l'art de Jacques Prévert. Là, en 36, ça a été l'apothéose du groupe Octobre, qui a pris part à toutes les luttes, dans les manifs, dans les soupes populaires, dans les queues de chômeurs, dans les balles du 14 juillet, dans les communes de la banlieue rouge. Ils jouent partout, ils se produisent dans les usines occupées, à la Samaritaine. Pour les employés en grève, le groupe Octobre joue le tableau des merveilles, adapté par Prévert d'après Cervantes, et mis en scène, enfin, assistant à la mise en scène, il y a un gars qui s'appelle Jean-Louis Barrault. Et l'aventure va prendre fin en 36, l'été 36 à peu près, et pour plusieurs raisons que ceux qui sont passés par le groupe Octobre n'aiment pas trop évoquer, parce que c'est d'abord l'amitié qui est restée pendant des années, ces gens sont restés amis, une sorte de fraternité, une réelle fraternité, mais les raisons... Il y en a quelques-unes qui sont entre autres politiques. Le voyage à Moscou avait sans doute fait comprendre à certains la vraie nature de l'Union soviétique. Il y avait peut-être ce pressentiment de ce qu'allait être le lâche soulagement. L'expression de Léon Blum. Il y a la rigidité dogmatique des staliniens à Paris, et autant de choses où l'ironie de Prévert n'avait plus tellement sa place. Et Roger Blin, qui était dans le groupe Octobre et qui deviendra, vous le savez bien, un homme de théâtre formidable qui nous fera aimer et découvrir Samuel Beckett, a dit: nos idées étaient anticolonialistes, antipolicières, antimilitaristes, anticurées et dans une certaine mesure antisocial-démocrate. Donc, nous n'avions plus de raison d'exister dans le cadre du Front Populaire. Mais, bon, bien sûr que l'esprit de ce groupe a continué à travers le cinéma, à travers le dessin animé, par exemple avec Paul Grimaud, le cabaret, la chanson, le théâtre, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été un moment merveilleux de notre histoire, que cette rencontre entre le surréalisme et le monde ouvrier.
L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant, grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non, l'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre, ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Et il se saoule, avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les whisky qui portent bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied. Le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied. Le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur. Le grand portrait du grand empereur. Le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne et triste farceur. La tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Merci à tous, merci à Marc, Jacqueline, Henri, Simone, Cécile, Lisette et tous les autres. Évidemment, vous avez vu que ce groupe Octobre, aujourd'hui, ben, a des héritiers avec le groupe Joli Môme. C'était un reportage avec Zoé Varier, à lire de Daniel Tartakovsky, L'avenir nous appartient, histoire du Front Populaire aux éditions Larousse. Jusqu'au jeudi 4 mai, à l'occasion du 70e anniversaire du Front Populaire, l'association Autour du 1er mai organise une série de projections à Tulle, en Corrèze, avec ce soir à 21h la projection justement de La vie est à nous de Jean Renoir au cinéma Le Palace, 106 avenue Victor Hugo à Tulle, capitale, faut-il le dire, de l'accordéon. Technique aujourd'hui Antoine Viossa et Armel M. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Imbert pour Le Répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. C'est le moment de la réclame.